Culture vous présente.
On connaît l'histoire de la littérature, on a une certaine idée de l'histoire du livre, mais que sait-on de l'histoire de ceux qui lisent ? Sur France Culture, tournons chaque jour une nouvelle page de cette histoire. Une histoire de la lecture, l'histoire d'un pouvoir qui revêt de multiples aspects, pouvoir du lecteur qui choisit, censure, transforme la volonté de l'auteur par la seule magie de l'acte de lire. Histoire de la lecture, par Alberto Manguel, à feuilleter chaque jour, du 24 octobre au 18 novembre à 13h30.
Bonjour à toutes et à tous, à voix nue, troisième entretien avec Paul Venn. Je rappelle que Paul Venn est historien, qu'il est professeur honoraire au Collège de France, qu'il a une œuvre très prolixe et passionnante, spécialisée dans l'histoire de la civilisation gréco-romaine, qu'avec lui nous avons la chance de pouvoir quasiment visualiser les jeux du cirque, de voir les gladiateurs s'affronter entre eux au sein des arènes et de sentir le sang couler, de voir les femmes se faire aimer dans les jeux érotiques, de comprendre les philosophes. Nous avons abordé dans la première émission avec vous, Paul, comment on écrit l'histoire et quelle rupture épistémologique vous avez introduit à l'intérieur de la science gréco-romaine. Dans la seconde émission, nous avons abordé le thème ô combien important de la croyance au mythe, la croyance au Dieu. Dans ce troisième entretien, j'aimerais, si vous en êtes d'accord, qu'on aborde le thème de la démocratie. Parce que vous êtes un homme politiquement incorrect, dans tous les sens du terme. Vous avez rappelé que vous avez adhéré, quand vous étiez jeune, au Parti communiste et que vous êtes parti en courant quand vous avez compris de quoi il s'agissait. Et en ce qui concerne la démocratie, eh bien, vous nous dites tout simplement dans votre dernier ouvrage, « L'Empire gréco-romain », que la démocratie n'est pas ce qu'on nous apprend à l'école, que la démocratie grecque n'était pas l'incarnation de l'égalité entre tous les citoyens. Que c'était bien plus compliqué que cela, cette démocratie.
Oui, c'est aussi différent de la démocratie idéale qu'est notre propre démocratie, dont le nom serait « domination des classes moyennes ». Non, pour les Grecs, la démocratie, c'est très simple. Un certain nombre d'hommes masculins, susceptibles d'être...
Hommes masculins, c'est pas mal, ça.
Oui, d'hommes mâles, pas d'hommes femelles.
Oui, oui, parce qu'il n'y a pas de femmes dans la démocratie grecque. Hein. Oh, on n'y pense même pas.
Oh, qu'allez-vous chercher là? Alors, un certain nombre de gens se réunissent et ont cette idée qui est quand même révolutionnaire. Après tout, nous sommes là, nous sommes nous-mêmes, nous sommes des durs, nous avons pas mal d'argent, nous avons de quoi vivre, nous savons nous défendre. Pourquoi est-ce qu'on irait se donner un roi? Il n'y a qu'à discuter entre nous de ce qu'on va faire. Et ils se réunissent, forment un petit groupe. Autour, il y a deux fois plus d'esclaves, il y a des femmes. Bon, mais ça, c'est... Les esclaves et les femmes, c'est deux troupeaux indociles qu'il faut traîner. Bon, enfin, on se débrouille comme on peut. Mais enfin, ils ont cette idée de se réunir à 400 ou 500 et de décider bon, qu'ils vont faire leurs affaires eux-mêmes en discutant. La même chose se passait dans l'Irlande médiévale, d'ailleurs, jusqu'en plein Xe siècle, où c'était des fermiers, des chefs de famille qui se réunissaient et qui discutaient. Alors, pour que tout soit bien réglé, que ce soit égalitaire, bon, il faut de temps en temps une magistrature. Chacun sait que si... que toute démocratie directe, parce que c'est une démocratie directe qui laisse dehors les 4/5 de la population, mais enfin la question n'est pas là. Cette démocratie directe du petit groupe, chacun sait qu'une démocratie directe qui se donne un bureau finit automatiquement en oligarchie de notables. Bon, c'est comme ça d'ailleurs que la démocratie grecque a fini. Mais enfin, dans la bonne époque, ils ont commencé par faire une chose plus simple, il fallait quand même un magistrat, un type qui exécute certaines tâches. On tirait au sort. C'était par tirage au sort. Sauf dans un cas, les généraux, parce que ça, c'est trop technique. Et, bon, c'était ça, simplement...
Entre puissants, quand même. On tirait au sort entre puissants.
Entre tous les citoyens.
N'importe qui.
N'importe lequel.
Un pauvre agriculteur pouvait être désigné
oui,
comme
et d'ailleurs, on lui donne une indemnité pour qu'il puisse... un peu comme nos députés ont un traitement.
Enfin, nos députés font plusieurs choses en même temps. On leur reproche d'ailleurs d'accumuler les charges. Vrai. Tandis que là, celui qui est désigné, par définition, se doit à la chose publique et ne doit faire que cela. En Grèce.
Oui, et en conséquence, on lui donne, il perd une journée de travail, par exemple, ou plusieurs journées de travail. Voilà donc comment cela fonctionne en laissant de côté les 4/5 de la population. Mais ça ne peut fonctionner que si on respecte profondément la règle du jeu. La conviction du respect de la règle du jeu, ce qu'ils appellent les lois ou la loi, qui est beaucoup plus qu'un code, la règle du jeu social, est encore plus respectée et sainte chez eux qu'elle ne l'est aux États-Unis, où la règle du jeu, c'est sacré. Là, c'est encore plus sacré, si j'ose dire, et ça donne le cas extravagant de Socrate. À un moment, Athènes est prise en main par un petit groupe que nous appellerions extrémiste, fasciste, tout ce que vous voudrez, disons fasciste pour faire vite. Bon. Et ce groupe condamne, pour des motifs stupides, Socrate à mort.
Enfin, des motifs stupides, c'est parce qu'il allait sur la place publique dire des vérités qui n'étaient pas forcément agréables à entendre.
Il disait des vérités qui n'étaient pas agréables à entendre, il avait des idées nouvelles sur les dieux, enfin tout ça, ça...
Et sur la politique.
Et sur la politique, ça changeait le statu quo. Enfin, il y avait du neuf, or il faut pas toucher aux choses qui marchent bien. C'était un marginal...
Qui
remettait tout en question, c'est pas supportable dans un gouvernement conservateur. Donc, on le condamne à mort, injustement évidemment. Et il est condamné à mort par un gouvernement dictatorial, tyrannique, qui n'est pas conforme à la constitution athénienne.
Vous voyez que quand vous parlez de Socrate, votre chienne est mécontente. Hein. Elle sent que l'indignation contre Socrate monte.
Oui, l'indignation contre Socrate monte.
Et donc ce groupe de fascistes décide de
le condamner à mort et de lui faire boire la ciguë, parce qu'il y a quand même une certaine douceur dans la vie athénienne. Il n'y a pas de supplice. On empoisonne le condamné à mort.
Mais il n'est pas obligé d'être condamné à mort et de la boire, cette ciguë.
Non, parce que ses amis avaient préparé son évasion. Tout était prêt pour l'évasion et tout le monde s'attendait à le voir s'évader. Il refuse de s'évader. Et, par soumission à cette loi suprême, se laisse condamner à mort et se laisse tuer, mourir par la ciguë. Je vous pose la question suprême. Avez-vous entendu beaucoup de résistants français pendant la guerre condamnés à mort par les fascistes de Vichy ou par la Gestapo se laisser fusiller alors qu'ils pouvaient s'évader par soumission à la loi? Ça nous paraît même absurde comme idée. Que dis-je ? C'est pire encore. Se laisser fusiller par les fascistes français, c'est laisser la France s'infliger à elle-même une souillure. C'était son devoir de s'évader, non seulement son droit. Pas pour Socrate, tellement qu'il n'a jamais pu faire la distinction entre la loi sacro-sainte et la cité. Tandis que pour nous, l'idée que la cité avait été française... avait été provisoirement occupé.
Paul Venn, votre chien, il est un peu encombrant. Du coup, vous le mettez à la porte. On le fera revenir tout à l'heure quand vous serez moins en colère contre Socrate.
Et que voulez-vous, elle pèse 45 kilos, elle saute dessus.
Manifestement, oui. Le maître n'est pas celui qu'on croit.
Non.
Hein, mais c'est un peu souvent comme ça dans la civilisation grecque. La dialectique maître-esclave, quelquefois, peut être dangereuse.
Ah oui, oui, vous avez raison. On vient d'en avoir une application contemporaine.
Donc Socrate
est incapable de distinguer la cité et les lois, pour ainsi dire, transcendantes qui la font, alors que pour nous l'idée est toute simple que la nation française avait été occupée par un pouvoir illégal et fasciste. Nous distinguons, mais on peut aussi ne pas distinguer. Il y a des jeux. Ça a été un problème pendant la Révolution française. Une partie des nobles s'est dit que puisqu'il n'y avait plus de roi et qu'on lui avait coupé la tête, la France n'était plus la France et que la fidélité envers la vraie France incarnée dans le roi exigeait qu'ils émigrent et qu'ils attaquent les révolutionnaires qui viennent faire la guerre contre la Révolution française. Tandis que les autres se disaient que la France demeure la France, qu'elle est envahie et qu'il fallait... protéger le territoire français. Ça a été le grand débat entre ceux qui identifiaient la nation et sa règle idéale, le roi, et ceux qui distinguaient entre la nation et son idéal. Et Socrate n'a pas fait... Les gens qui voulaient faire évader Socrate distinguaient Athènes du pouvoir qu'il occupait momentanément. Socrate ne distinguait pas. La loi était la loi et restait la loi. Il y a eu, sous le nazisme, il y a eu la même chose, je crois, avec Ernst Jünger, qui, par fidélité à la nation, au peuple allemand, est resté à obéir à un individu dont je préfère ne pas mentionner le nom, parce qu'il salit la bouche au passage.
Mais nous avons tous appris par Platon que si Socrate avait bu la ciguë, c'est parce qu'il préférait être en accord avec lui-même plutôt qu'en dissension avec les autres. Et que donc, cette adhésion à lui-même lui permettait d'imaginer une liberté intérieure après la fin temporaire de sa vie, parce qu'après, on ne sait pas.
Oui, certes, il est beau qu'un homme, il est beau, il est utile qu'un homme donne l'exemple de se sacrifier lui-même à des convictions, mais enfin, je peux pas admirer ça éperdument. Non, il y a trop de superstition dans cet homme. Chez Socrate, vous savez, il croyait qu'il avait un démon. Les historiens, par respect pour Socrate, évitent de le raconter. Mais un jour, il s'est passé la chose suivante. Socrate se promène dans Athènes avec des amis, et puis il leur dit « Ah non, je vous laisse, je passe pas par cette rue, je prends cette autre rue. » Son démon l'avait prévenu qu'un troupeau de porcs destiné à l'abattoir allait traverser la rue. Et... il croyait vraiment à son démon. Non, on ne peut pas idéaliser Socrate, on n'est pas obligé de... Et puis il manie l'ironie, il ne faut jamais manier l'ironie.
Mais il manie l'ironie pour mieux faire accoucher ses élèves de leurs propres contradictions et les enlever de leur gangue d'impureté et les élever peut-être vers le ciel des idées. En tout cas, c'est ce qu'on nous apprend toujours à l'école, et y compris sur les bancs de l'université. Et vous, dans votre dernier ouvrage... L'Empire gréco-romain, vous nous dites exactement le contraire.
Ben oui, c'est-à-dire, c'est Socrate qui a inventé qu'il existait des transcendances. C'est-à-dire qu'il y a au-dessous de nous des choses, l'absolu, Dieu, les principes, etc. Le bien, le beau, le vrai, le Dieu et tout. C'est le règne des transcendances qui, en fait, a disparu chez nous, en Occident, vais-je dire. Sauf pour de rares gens, et encore qui n'y croient pas vraiment, nous savons très bien qu'il n'y a pas de fondement éternel à la morale, que nous ne croyons plus aux transcendances, et c'est le vrai sens du mot de Nietzsche, Dieu est mort. Quand Nietzsche dit Dieu est mort, il ne veut pas dire que le christianisme fiche le camp. D'abord, il ne fiche pas le camp, ensuite, c'est pas le problème. Il veut dire que la croyance humaine en des principes transcendants et suprêmes s'est effacée à partir des années 1850. Parce que ça, les années 1850, c'est une sacrée coupure. Ne serait-ce qu'avec des individus comme Renan ou avec l'historisme. Flaubert disant, le sens historique est la grande découverte de notre 19e siècle. Ça, les gens sont aperçus que l'histoire de l'humanité est un gigantesque cimetière d'idées mortes. Et qu'il n'existe pas de principe transcendant. Il faut respecter la morale comme on respecte les sens uniques. Il faut la respecter parce que l'idée de tuer, même accidentellement, fait horreur. Enfin, il faut respecter pour pouvoir vivre. Mais c'est pas parce qu'il y a un ordre absolu, fût-il qu'ancien, qui l'ordonne.
Mais quand l'ordre et la croyance en la raison étaient définitivement saccagés, les historiens, les intellectuels occidentaux se sont toujours ressourcés, y compris dans ces fameuses années 1850, à la civilisation grecque comme ressourcement intellectuel, spirituel, harmonieux d'une civilisation engloutie. Pourquoi, à votre avis ?
Je pense que c'est parce que, en Occident du moins, ce sont les Grecs qui ont les premiers inventé cette chose qu'on appelle la capacité de penser abstraite. Je ne veux pas dire que leurs idées, même celles d'Aristote, sont encore vivantes, encore moins, mais qu'ils ont donné pour la première fois en Occident l'exemple de la capacité d'analyse abstraite et de raisonnement. Je crois que la même chose s'est passée en Inde par le bouddhisme, qui paraît-il a élaboré toute une philosophie très compliquée et même une logique, mais là je ne sais pas. En tout cas, en Occident, de même que chez nous un écolier ne commence à comprendre des abstractions que quand il arrive en classe de philo, de même c'est depuis que les Grecs ont inventé la capacité d'analyse et de raisonnement abstrait que nous savons le pratiquer.
Vous évoquiez, Paul Venn, tout à l'heure, l'image de Socrate et de cet homme qui s'est trop, incarné dans l'idée du bien et qui a préféré perdre sa vie plutôt que de fuir vers un autre pays pour imaginer d'autres écoles, d'autres élèves, d'autres possibilités de penser le monde. Platon, vous le décrivez dans votre dernier ouvrage, L'Empire gréco-romain, comme un homme aussi qui a élaboré finalement une philosophie du pouvoir qui tendait plus vers un monde totalitaire que vers un monde de possibilités d'incarnation de différentes libertés.
Oui, c'est une chose très curieuse. Je parle ici du traité des lois de Platon. Chez nous, nous aurions l'idée toute naturelle que si nous voulons faire une société, c'est, comme dit la Constitution américaine de 1774, si je ne me trompe pas sur la date, pour le bonheur des membres de la société. À quoi bon faire une société si c'est pour rendre les gens malheureux? La société est faite pour les gens et non l'inverse. Chez Platon, il n'y a pas du tout ça. Il y a l'idée qu'il faut faire une société la mieux construite possible pour le plaisir d'avoir fait une belle société, en se fichant éperçument du sort des gens. Alors on distribuera les gens à l'intérieur entre diverses catégories. Il y a les esclaves qui travailleront pour que d'autres puissent mener une vie de loisirs. Mais c'est pas souci à l'instant de dire qui travaillerait, qui passerait sa vie dans le loisir, nourri par les autres et à ne rien faire. C'est pas du tout son problème. Le sort des gens ne l'intéresse d'aucune façon. Il faut qu'il fasse une société idéale, conforme en réalité aux sociétés oligarchiques que cet aristocrate adorait. Société où il y avait une poignée de privilégiés qui vivaient de loisirs, c'est-à-dire nourris par les autres, et puis des petites gens qui travaillaient et qui n'étaient pas heureux, mais c'est pas son problème. L'oligarchisme est pour lui, l'aristocratisme, l'oligarchisme est pour lui une évidence première qu'il justifie en disant une société comme ça, c'est une belle société, regardez, il y a des étages. Il y a des gens qui mènent au sommet une vie noble. C'est comme si je me félicitais de la misère sous Louis XIV en disant que ça a permis de construire Versailles.
Et faire partie de la cité, ça voulait dire par définition ne pas travailler.
Oui, seul, par définition, on doit se consacrer entièrement à un loisir noble où on s'occupe des affaires publiques et de choses élevées.
C'est-à-dire discutailler dans l'agora toute la journée.
Discutailler dans l'agora, cultiver toutes les vertus, défendre la patrie. Et vous avez donc ce contingent d'aristocrates menant la vie noble, proprement civique, et qui est nourri par les 9/10 de la population. On a fait des statistiques, c'est invraisemblable. L'inégalité, c'est de l'ordre de 3 000 contre 30 000. Et ça a toujours duré. Le platonisme est fondamentalement une théorie de l'oligarchie, ça dure jusqu'à Plotin.
De l'oligarchie, ou on peut aller encore plus loin, du totalitarisme, comme certains penseurs le disent aujourd'hui?
Oh, je crois que c'est pour adopter un mot contemporain. En tout cas, c'est aussi antipathique que le totalitarisme. Mais ce n'est quand même pas le règne de l'État pour la grandeur de l'État, non. C'est le règne de l'aristocratie pour la noblesse du genre humain.
Et pourquoi cette tentation, selon vous, Paul Venn, chez des philosophes comme Platon, d'être, en tant que philosophe, d'être des philosophes rois qui sont très tentés par l'idée d'inscrire dans l'éternité du temps des législations à l'intérieur desquelles les hommes devraient vivre?
À être philosophe, on n'en est pas moins homme, et on peut être un sot ou pire encore. Regardez Heidegger. Non, il avait ses idées politiques qui pour lui étaient de tranquilles évidences, et il a construit une théorie en fonction de cela. Bon, je vous dirai d'ailleurs que je pense pas qu'il y ait dans les idées politiques de Platon, la moindre chose qui est encore un intérêt actuel. Ces analyses n'ont rien de transcendant. Non.
Mais l'approche de la vérité, la maïeutique, l'accouchement en chacun d'entre nous de ces vérités les plus enfouies qu'on peut lire dans les dialogues de Platon encore aujourd'hui paraissent très fraîches.
Ah là, il y a tout autre chose. Presque autant que chez Aristote, une virtuosité d'analyse abstraite sur des problèmes qui quelquefois se posent encore aux logiciens aujourd'hui, qui quelquefois ne se posent plus, mais qui sont en tout cas une école de formation au raisonnement. Peut-être, probablement ne reste-t-il rien de tout ce qu'il est allé chercher, sauf peut-être, me dit-on, le Parménide, mais je n'en sais pas assez, mais en tout cas, il est évident que c'est une école de raisonnement. À présent, on n'est pas obligé d'en croire un seul mot de ce qu'il dit. Que voulez-vous, l'âme, c'est ce qui sert au corps à se déplacer. Les planètes se déplacent, donc elles ont une âme. La question est de savoir si cette âme est à l'intérieur ou autour. C'est pas passionnant comme discussion. Ça n'a rien d'actuel, dirons-nous. Mais ça oblige quand même à se poser des problèmes. Qu'est-ce que c'est que se mouvoir? Qu'est-ce qu'on va appeler une âme? Comment va-t-on expliquer le mouvement? Il a posé le problème du mouvement. Ça aboutira à Galilée, à Newton et à envoyer des fusées dans la Lune.
Et les problèmes de la vertu aussi. Bien faire, ne pas bien faire, déroger à la loi, ne pas la transgresser. Il y a dans les dialogues de Platon toujours la tentation pour le maître de faire comprendre à l'élève qu'il y a quand même un ciel des idées, une manière de s'élever.
Oui. Il y a évidemment l'idée d'inscrire toute chose dans une espèce de monde supérieur et où ce qui est vrai est également bien. Je vais l'expliquer de la façon la plus amusante. Qu'est-ce que c'est qu'un bon médecin? C'est un médecin qui fait son travail comme il faut, c'est un médecin qui est digne de son nom, c'est un médecin comme on doit l'être, c'est un vrai médecin. Si vous voulez, un bon médecin, c'est un vrai médecin. Il n'y a pas d'autre vrai médecin que le bon médecin. De même, quand nous étions jeunes, nous prétendions que le mot militaire n'avait pas un sens mais une fonction qui était d'enlever tout sens au substantif qui précède. Nous donnions comme exemple santé militaire ou justice militaire. Eh bien, vous voyez, une vraie santé, un vrai service de santé, c'est un bon service de santé. Et alors ça s'exprime, un vrai médecin, c'est un seul et vrai médecin, digne du nom de médecin, un bon médecin. Alors ça s'exprimera sous la formule suivante, qui vous donne la capacité d'abstraction de Platon, le bien est au-delà de l'être. Alors on ne voit pas trop, si on enseigne à des élèves de philo que le bien est au-delà de l'être, ce que ça peut vouloir dire, ça veut dire simplement qu'un bon médecin, c'est le seul qui mérite d'être qualifié de vrai médecin.
Merci, merci Paul Venn pour ce troisième entretien de À voix nue. À demain.
Cette semaine, sur vos radios web, sur franceculture.com, dans les chemins de la connaissance, portrait d'un philosophe. Portrait d'Alain, à travers des archives de 1954 à 1960. Hors les murs, voyage au cœur de la matière. Des noyaux aux quarks et après, à la Cité des sciences. À l'INATEC, la question du témoignage des coupables de génocide. Paroles de bourreaux, trois auteurs et documentaristes expliquent leur choix et leur expérience en ce domaine. Dans les sentiers de la création, tout un programme. La drôle de relation entre les créateurs et leur paradis, l'art et l'artifice, la perception et ses portes, les paradis artificiels volent planer cette semaine dans les méandres de la mémoire radiophonique à travers des archives de 1957 à 1971. Enfin, les belles captives vous invitent à faire un petit tour du côté de la Cinémathèque, puis aux Galeries Nationales du Grand Palais pour trois conférences exceptionnelles consacrées aux Indiens du Brésil, en écho à la semaine que France Culture consacre à ce pays. Les chemins de la connaissance, les sentiers de la création, à la carte, 24h sur 24, sur franceculture.com.
Cet été au bord de la plage, j'ai pas été jaloux, oh non. Quand je t'ai vu t'ébattre en nage, parmi les les algues et les poissons.
Vous a été proposé par France Culture, partenaire de Radio Néo.
Il est 17h30, les pieds sur terre, c'est maintenant. Turc de France, cette semaine.